Audiolib présente La Daronne de Anne-Laure Kerr, lue par Isabelle de Botton. À mes enfants. Chapitre 1. L'argent est le tout. Mes fraudeurs de parents aimaient viscéralement l'argent. Pas comme une chose inerte qu'on planque dans un coffre ou que l'on possède inscrit sur un compte. Non, comme un être vivant et intelligent qui peut créer et tuer, qui est doué de la faculté de se reproduire, comme quelque chose de formidable qui forge les destins, qui distingue le beau du laid, le loser de celui qui a réussi. L'argent est le tout, le condensé de tout ce qui s'achète dans un monde où tout est à vendre. Il est la réponse à toutes les questions. Il est la langue d'avant Babel qui réunit tous les hommes. Il faut dire qu'ils avaient tout perdu, y compris leur pays. Il ne restait plus rien de la Tunisie française de mon père, rien de la Vienne juive de ma mère. Personne avec qui parler le patouette ou le yiddish. Pas même des morts dans un cimetière. Rien, gommé de la carte, comme l'Atlantide. Ainsi avaient-ils uni leur solitude pour aller s'enraciner dans un espace interstitiel entre une autoroute et une forêt, afin d'y bâtir la maison dans laquelle j'ai grandi, nommée pompeusement la propriété. Un nom qui conférait à ce bout de terre sinistre le caractère inviolable et sacré du droit, une sorte de réassurance constitutionnelle qu'on ne les foutrait plus jamais dehors, leur Israël. Mes parents étaient des métèques, des rastaquers, des étrangers. Raus, une main devant, une main derrière. Comme tous ceux de leur espèce, ils n'avaient pas eu beaucoup le choix. Se précipiter sur n'importe quel argent, accepter n'importe quelle condition de travail, ou alors magouiller à outrance en s'appuyant sur une communauté de gens comme eux, ils n'avaient pas réfléchi longtemps. Mon père était le PDG d'une entreprise de transport routier, la Mondiale, dont la devise était « partout, pour tout ». PDG, un mot qui ne s'emploie plus aujourd'hui pour désigner un métier, comme dans « Et fais quoi ton papa ?» Il est PDG. Mais dans les années 70, ça se disait. Ça allait avec le canard à l'orange, les cols roulés en nylon jaune sur les jupes culottes et les protège-téléphones fixes en tissu galonné. Il avait fait fortune en envoyant ses camions vers les pays dits « de merde », dont le nom se termine par « en », comme le Pakistan, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, l'Iran, etc. Pour postuler à la mondiale, il fallait sortir de prison car, d'après mon père, seul un type qui avait été incarcéré au minimum 15 ans pouvait accepter de rester enfermé dans la cabine de son camion sur des milliers de kilomètres et défendre son chargement comme s'il s'agissait de sa vie. Je me vois encore comme si c'était hier, en petite robe de velours bleu marine, avec mes chaussures vernies fromant le royer, à l'occasion de l'arbre de Noël, entouré de types balafrés, tenant dans leurs grosses mains d'étrangleurs de jolis petits paquets colorés. Le personnel administratif de la mondiale était à l'avenant. Il se composait exclusivement de compatriotes pieds noirs de mon père, des hommes aussi malhonnêtes que laids. Seule Jacqueline, sa secrétaire personnelle, venait rehausser le tableau. Avec son gros chignon crêpé, dans lequel elle piquait avec coquetterie un diadème, cette fille d'un condamné à mort sous l'épuration avait un air classieux qui lui venait de sa jeunesse à Vichy. Cette joyeuse équipe infréquentable sur laquelle mon père exerçait un paternalisme romanesque lui permettait, en toute opacité, d'acheminer des cargaisons dites additionnelles à ses convois. C'est ainsi que le transport de morphine base avec ses amis corses pieds noirs, puis d'armes et de munitions, avait fait la fortune de la mondiale et de ses employés royalement payés jusqu'au début des années 80. Pakistan, Iran, Afghanistan... Je n'ai pas honte de le dire. Mon papa, à moi, a été le Marco Polo des Trente Glorieuses, en rouvrant les voies commerciales entre l'Europe et le Moyen-Orient. Toute critique de l'implantation